Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en apportèrent. » Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jean, dans son évangile, identifie 7 miracles. Vous vous souvenez, dans les cellules, on a vu ça, la construction de l'évangile de Jean. Il identifie 7 miracles et au sens littéral du terme grec, miracle, ici, Jean emploie le mot signe. Donc c'est comme un signe qu'il donne, 7 signes ou confirmation de la véritable identité de Jésus. Jean raconte ici le premier grand signe que Jésus a opéré pour démontrer sa divinité. Il change l'eau en vin. Extraordinaire. Certains ont pensé que Jésus devait être français, mais il n'en est rien. Un signe, ça pointe par définition vers quelque chose de plus important, d'accord, que le signe lui-même. Un signe, ça pointe vers une réalité, vers quelque chose de concret. Lorsque pour les mariages, on cherche à réunir les invités, pour pas que les invités se perdent, on accroche des petits ballons ou on accroche des petits cœurs, vous savez, sur des poteaux. Et ça, c'est très pratique, comme ça, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Mais vous ne vous arrêtez pas au poteau. Vous manquez pas le mariage pour vous arrêter au signe. Et de la même manière, ici, il ne faut pas s'arrêter au changement de l'eau en vin. Il faut aller jusqu'à Jésus vers lequel pointent tous ces signes. Dieu, il est le seul à créer quelque chose à partir de rien. C'est son premier miracle et c'est le commencement de son ministère public. Vous savez, vous avez remarqué certainement ces derniers temps, quand on veut démarrer sa campagne, on essaye de faire un gros coup, quoi. On essaye de faire un petit scénario qui permette que tout le monde ne rate pas la chose. Mais là, Jésus, il semble pas avoir d'équipe marketing pour préparer son début de campagne, parce que ici, c'est l'occasion de faire éclater sa gloire, de montrer qui il est véritablement, le Fils de Dieu. Mais Jésus ne choisit pas une grande ville comme Jérusalem. Il ne choisit pas de faire un miracle particulièrement spectaculaire, comme la guérison d'un paralytique depuis 38 ans, comme on le verra dans le chapitre 5, ou de guérir un aveugle de naissance, comme on verra au chapitre 9, ou carrément ressusciter un mort, comme on verra au chapitre 11. Non, là, il cherche pas à être vu, il fait pas de discours, il ne s'adresse pas à une foule, il y a aucune mise en scène. Non, il choisit une petite ville de campagne d'une région qui est plutôt méprisée en Israël, la Galilée, et il ne bouge même pas de sa place. Il donne quelques consignes à des serviteurs, ni les mariés, ni l'ordonnateur du repas, le maître de cérémonie, là, ne savent ce qui s'est véritablement passé. Et donc, ce matin, je vous propose de voir que Jésus, il est le sauveur de la fête. Et on verra d'abord quelle est l'occasion du signe. Hein, ce sont des noces en péril. On verra ensuite que le signe lui-même, c'est l'eau changée en vin. Et puis on verra ensuite la compréhension du signe, c'est-à-dire la foi qu'on place. Regardons d'abord l'occasion du signe, des noces en péril. Vous faites la liste de vos invités pour votre mariage. Je sais que ça va parler à quelques-uns normalement, ça. Vous faites la liste des invités et puis là, vous dites pour la cérémonie... pour la cérémonie, ce qui serait bien, c'est quand même d'avoir Jésus. Peut-être même on pourrait lui demander de faire le message ou la prière de bénédiction. Vous voyez ? Mais est-ce que vous gardez Jésus pour... après la cérémonie, est-ce que vous gardez Jésus pour la fête, quoi, pour le repas, pour mettre l'ambiance, quoi, pour est-ce que vous le gardez dans la liste des invités? C'est un célibataire, il vient seul. Bon là, il a quelques copains avec lui quand même, mais est-ce que vous le gardez? Ça veut dire quelle est l'image que vous avez de Jésus dans votre tête? Est-ce que Jésus, c'est quelqu'un qui va vous gâcher la fête, quoi? C'est-à-dire, il va, avec Jésus, vous n'allez pas pouvoir vraiment jouir de la vie, quoi. Est-ce qu'il va vous empêcher de vous amuser? Est-ce que dans votre pensée, Jésus est celui qui va vous empêcher de rire, de boire du vin? Est-ce que dans votre vie, Jésus, c'est quelqu'un qui va ajouter des contraintes, toutes sortes de règles? Les choses on fait pas. Un peu casseur d'ambiance. Ou bien, est-ce que dans votre vie, Jésus, c'est quelqu'un d'essentiel à la fête? Pour que la fête soit vraiment réussie. Eh bien, les mariés de Cana, ils ont choisi d'avoir Jésus pour toutes les festivités. Tout le temps des festivités, Jésus sera avec eux. Et bien leur en a pris, n'est-ce pas? Puisque Jésus s'est révélé être le sauveur de la fête. Les noces au premier siècle en Palestine, ça constitue un événement vraiment important, un événement social dont la célébration peut parfois durer plusieurs jours. Le fait que Marie soit conviée et que Jésus le soit aussi et ses frères, comme on le voit au verset 12, et puis aussi les nouveaux disciples, ça nous laisse penser que Jésus, que les noces étaient celles de membres de la famille, ce qui explique aussi que Marie soit impliquée dans l'organisation du repas et se sente aussi responsable de venir en aide à la famille du marié. Dans la Bible, le vin est associé à la bénédiction, à la prospérité, à l'abondance, à la joie, à la fête. Vous vous souvenez, on a étudié Genèse, quand Isaac va bénir Jacob malgré lui, il va lui donner du blé et du vin en abondance. Voilà, comment est-ce que se montre la bénédiction? Du pain, du blé et du vin en abondance. Quelque chose pour rassasier, pour combler de joie. Et quand Ésaü se rend compte qu'on lui a volé la bénédiction, il vient lui dire, mais t'as pas une bénédiction? Il lui dit, écoute, je viens de lui donner tout le blé, tout le vin en abondance. Qu'est-ce que je peux encore te donner à toi? Et ça, c'est l'idée de la bénédiction, le vin, de la réjouissance, des festivités. En France, on ne peut pas imaginer organiser une fête sans le vin. Le psaume 104 dit que le vin réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Petite parenthèse, que je fais ici, c'est que la Bible aussi dénonce avec force et à de nombreuses reprises l'ivresse et la bravoure pour boire du vin et des liqueurs fortes. Non, mais gardez en tête le vin comme, voilà, pour se réjouir, pour faire la fête. Le mari, à l'époque, c'était le grand pourvoyeur du repas. Il en avait la charge et c'était aussi tout son honneur que d'assurer le repas, l'organisation du repas et que tout le monde ait suffisamment. Manquer de vin, le jour du mariage, c'était le genre de problème qui vous faisait entrer dans l'histoire des mariages ratés. C'était la catastrophe sociale. C'était la honte, le déshonneur total. C'était se mettre la belle famille à dos. Le beau-père qui vient voir le gendre. Alors, toi, tu nous invites à tes noces. Tu ne me prévois même pas assez. Et comment est-ce que je peux te confier ma fille? Est-ce que tu vas vraiment te savoir pourvoir à ses besoins toute ta vie? Non, mais... Alors là, une grosse tension. Vous avez déjà vu ces vidéos qui montrent comment les mariages ont tourné à la catastrophe? Où la robe de mariée prend feu parce qu'on a jeté des pétards? Où la mariée trébuche aussi dans sa robe et s'écrase sur le gâteau, la pièce montée. Vous avez déjà vu le jeune marié un petit peu empoté et qui marche sur la robe de sa promise, et puis la robe qui se déchire, c'est la honte. Et tout ça est filmé. Et puis après c'est sur YouTube. Vous voyez les gens, j'ai vu une vidéo comme ça, c'est juste un mariage superbe, des très beaux mariés, et c'est le moment de la photo officielle. Alors ils sont dans un cadre magnifique, il y a un beau lac, et puis un ponton, vous savez, un vieux ponton en bois. Alors ils décident de faire la photo sur le ponton. Vous voyez où je veux en venir? Il y a les mariés au milieu, il y a plusieurs témoins garçons, plusieurs témoins filles, tous ils sont en costard, et la dernière personne s'ajoute comme ça sur le ponton, et le ponton se décroche, et puis tout le monde finit dans l'eau. Quoi. La cata, quoi. Je ne sais pas si c'était avant ou après la cérémonie, mais ils ont pris du retard ce jour-là. Mais la plupart du temps, ces catastrophes qui arrivent, elles arrivent en raison d'une maladresse ou d'une mauvaise idée. Mais la réalité, c'est que nos mariages ne sont pas gâchés par nos maladresses ou nos mauvaises idées. J'ai vu dans des mariages, la table des mariés s'écrouler. Mais le mariage va bien. Le mariage en lui-même va bien. Non, ce qui gâche nos mariages, ce qui gâche nos vies, ce sont des choses bien plus profondes. Ce qui gâche nos vies, c'est notre égoïsme, c'est notre orgueil, c'est notre manque de prévenance. Ce qui gâche notre mariage, c'est notre paresse, notre manque de gentillesse. C'est notre manque d'affection. C'est notre manque de respect, de douceur, notre manque de fidélité. Bref, ce qui gâche nos mariages, ce qui gâche nos vies, c'est notre manque de justice, de sainteté. Autrement dit, c'est notre péché. Voilà ce qui gâche notre mariage. De ce fait, nos mariages ne tiennent pas leurs promesses de bonheur et de félicité. Vous vous souvenez, lors du premier mariage, quand Adam voit sa promise devant lui, il s'éclate, il crée un magnifique cantique. « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. » Il se marie et... Dans les, dans les instants qui suivent, à la première tentation, tout est par terre. Tout est par terre. Tout est ruiné. Il commence à dire, non, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de toi. Et puis elle, non, c'est à cause du diable. Tout est désuni. Simplement à cause du péché. Il y a quelque chose d'important ici. On voit que dans nos vies, on a beau tout bien préparer, un jour ou l'autre, nous allons manquer de quelque chose. On a beau s'attendre au bonheur, à la paix, à la joie, il y a toujours quelque chose qui vient gâcher la fête. On a le sentiment que chaque fête est comme suivie d'un échec. Chaque fête est comme inachevée véritablement. On a le sentiment que chaque fête, il y a aussi un désenchantement. Il y a un vide, une désillusion. Et Jésus est précisément venu pour sauver notre fête. Précisément, il est venu pour nous secourir là-dedans. Et donc, on voit le signe, l'eau changée en vin. Et vous avez remarqué, c'est Marie qui, elle est toujours appelée la mère de Jésus dans l'évangile de Jean. C'est la mère de Jésus qui réalise que la fête est sur le point d'être gâchée. À cette époque, Joseph est certainement déjà décédé. Il n'apparaît plus dans les évangiles. Et Jésus étant l'aîné est probablement le soutien de famille, au fond. Et donc Marie, elle a pris l'habitude de... En plus, il est encore célibataire, donc elle peut facilement aller le trouver et lui demander de la secourir. Et donc elle se tourne vers lui et elle arrive un peu catastrophée. Jésus, ça va être un désastre. Ils n'ont plus de vin. Et à ce moment-là, Jésus a fait une réponse au verset 4 qui a fait couler beaucoup d'encre. Tout d'abord, il dit « Femme, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Je voudrais quand même préciser que « femme » ici, ce n'est pas une manière impolie de s'adresser à sa mère. Dans le même évangile de Jean, au chapitre 19, dans une situation terrible où Jésus va montrer une grande, grande affection pour sa mère, il est crucifié, sa mère est là au pied de la croix avec Jean, et au chapitre 19, et verset 26, Jésus dit... Voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ça, c'est très affectueux ici. C'est un moment où il confie sa mère à son disciple. Et puis, au moment de la résurrection, Marie de Magdala arrive au tombeau, et puis il semble que le jardinier vient, et au verset 16, ce jardinier est en réalité Jésus et lui dit « Pourquoi pleures-tu ? » Femme, pourquoi pleures-tu ? Femme, il est en train d'essayer de consoler Marie, celle qui avait été sa disciple. Il dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Donc c'est vraiment une marque, c'est respectueux, ça n'est pas quelque chose d'impoli. Néanmoins, il ne dit pas « Maman », il y a une certaine distance ici entre Jésus et Marie. Et c'est comme si Jésus est en train de dire « Je suis en train de débuter mon ministère public maintenant. » Ce n'est pas le fait que tu sois ma mère qui dirige ma vie. Je dirige ma vie d'après les instructions du Père. J'accomplis maintenant ma mission. Et toi, tu ne dois plus interagir avec moi simplement comme avec ton fils, mais avec ton Messie, le Fils de Dieu, ton Sauveur. Et au fond, c'est ce qui confirme la parole qui suit quand il dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» La Bible en français courant traduit « Est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire ? » Est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire ? Je pense que cette parole, elle est encourageante. dans le sens où ça signifie que Jésus connaît la situation. Jésus connaît ce qui se passe et il n'a pas besoin qu'on le renseigne, il n'a pas besoin qu'on lui explique le tragique de la situation. Non, non, il est au contrôle. Ça, c'est très rassurant, cette pensée-là, à ce moment-là. Je pense que c'est ce que garde Marie dans son cœur. Et puis il dit, mon heure n'est pas encore venue. C'est quoi cette réponse? Mon heure n'est pas encore venue. Et en fait, quand on lit l'évangile de Jean, on se rend compte que Jean parle régulièrement de cette heure. Regardez au chapitre 7, verset 20, il est dit, c'était au moment où il est monté à Jérusalem, je me suis trompé de verset 30. Il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Et puis, dans le chapitre suivant, chapitre 8, verset 20, à nouveau, il est dit, Jésus dit ses paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Voyez-vous, là, Jean est en train de placer des comme une quelque chose là, il y a une espèce de le mot qui me vient, c'est teaser, quelque chose qui annonce quelque chose de plus grand. Il est en train de dire il y a un événement très important. Un événement qui va se produire ultérieurement. Il y a l'heure. Et quand on lit ça, on se dit, mais c'est quoi cette heure? Quand est-ce qu'elle va venir, cette heure? Et puis là, on est piqué dans notre intérêt et on lit vraiment avec curiosité jusqu'au moment où, dans les chapitres 12 et 13, on commence à comprendre de quelle heure il s'agit. Notamment, chapitre 13, verset 1, il est dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Son heure, c'était de passer de ce monde au Père. Et puis chapitre 17, verset 1 encore, il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et dans les minutes qui suivent, Jésus est arrêté, il est condamné, il est crucifié. 3 jours plus tard, il ressuscite. Il est glorifié. Voyez-vous, l'heure à laquelle Jésus fait référence ici, c'est l'heure de la croix. C'est l'heure qui sera suivie par la résurrection. Et Marie, elle expose au fond le besoin un peu terre à terre, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus, il entrevoit déjà une ère messianique où le vin va couler à flot. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure en Ésaïe, je voudrais vous le relire à nouveau. Et symbole de cette prospérité, je lis juste les versets 6 et puis jusqu'au verset 9. Il dit, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples. C'est le voile qui demeure, qui nous aveugle. Il l'anéantit, la couverture qui couvre les nations. Et puis il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre, c'est-à-dire la honte de son peuple. Car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Jésus, il est en train de parler, il est en train de... J'ai lu ce commentaire. À quoi pensent les célibataires pendant un mariage? Célibataire pendant un mariage, il pense à leur mariage. Moi, je voudrais faire comme ça. Ça, je ne ferai pas. Mais ça, je vais faire ça comme ça. Et Jésus, qui est célibataire, il pense peut-être à son mariage, à ses noces qui auront lieu dans le ciel. Et là, il sait, lui, qu'il va y avoir du vin en abondance. Une joie ineffable, quelque chose qui va remplir les cœurs. Il sait qu'il n'y aura plus de honte, que les gens comprendront qui il est. Et son épouse sera parfaite, belle, l'Église entièrement rachetée, purifiée, sans tache ni ride. Et il est en train de penser à ça. Et puis sa mère vient. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Mais pour que cette heure vienne, pour que ce jour d'abondance, où la honte a disparu, où toutes nos ratés, tous nos manquements ont disparu, il faut d'abord que je meure. Il faut d'abord que je connaisse la croix. Il faut d'abord que moi aussi je boive une coupe. La coupe de la colère de Dieu contre le péché. La coupe qui... De la croix, du calvaire, de la condamnation, de la justice de Dieu qui s'abat sur lui, le seul innocent. Il doit mourir. Et donc il faut encore attendre cette heure de la croix pour que vienne cette paix. Mais il va néanmoins envoyer un signe, laisser un échantillon de ce qu'il va faire. Et l'échantillon, c'est la transformation de l'eau en vin. Je crois que Marie s'attend à ce que Jésus fasse quelque chose. Et elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et puis là, il va opérer un signe qui pointe vers cette heure d'abondance, là où on aura fini avec toutes les manques. Et là, il commande au serviteur de remplir d'eau les vases destinés aux purifications. Et j'aimerais vous montrer un peu ce que c'est que ces vases dans l'évangile de Marc, chapitre 7. Je lis juste quelques versets. Marc 7, les premiers versets du chapitre, il dit « Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, des cruches, des vases, des reins. » Vous voyez, comprenez, là les juifs, les juifs, ils ont instauré un système, c'est d'une complexité terrible. Jésus n'est pas en train de dire il faut se laver les... Comment dire, c'est pas bien d'avoir les mains sales pour manger. Si vous avez les mains sales, lavez-les. Et Jésus le faisait, et ses disciples aussi. Mais là, ici, il parle de rite. C'est-à-dire, quand il rentrait de la place du marché, il devait se laver les... Enfin, se purifier les mains. C'est-à-dire, ils étaient dans ce monde-là, donc ils mettaient les doigts comme ça, puis quelqu'un versait de l'eau sur leurs mains, puis ils mettaient les mains comme ça. On versait les mains. Et puis après, c'était les plats qui sortaient du lave-vaisselle. Pour qu'ils soient purs, on jetait de l'eau encore dessus, et puis dans un sens, dans l'autre. C'était que des règles bizarres. De quoi ça parle? En fait, la plupart du temps, les pêcheurs que nous sommes, on a besoin d'essayer de se... s'améliorer, quoi, d'être un peu plus présentable, d'être un peu mieux. Alors on fait des trucs bizarres aussi. On va faire des genoux flexions, brûler des cierges, faire des toutes sortes de rites. Et on pense qu'avec des rites comme cela, avec des traditions d'hommes, eh bien, on va encore et encore, peut-être se purifier, comme se laver. Comprenez? Et plus ça va, et plus on se fait des trucs comme ça. Et on se fixe des règles. des lois, des traditions, et on pense que parce qu'on fait, on suit ces traditions-là, alors on va être accepté de Dieu. Mais ces choses-là n'ont jamais lavé un seul péché. Ces choses-là n'ont jamais lavé le cœur, n'ont jamais lavé la conscience, n'ont jamais ôté la culpabilité de nos vies. Rien ne peut faire ces choses, de ces choses-là. Vous vous souvenez, Pilate, il condamne Jésus. Il sait que Jésus est innocent. C'est pas bien. Eh ben, il se lave les mains. C'est pas qu'il avait les mains sales, il l'a pas égorgé lui-même. Mais publiquement, il dit, voilà, je m'en lave les mains, je suis pur de cette affaire-là. Vous croyez que c'est son cœur, sa faute a été lavée parce qu'on a versé de l'eau sur ses mains? Non. Aucune de nos traditions, aucun de nos rites, aucune de nos règles, de nos lois que l'on s'est imposées, la longueur des jupes, la forme de nos chignons, la belle cravate, ou quoi que ce soit, n'a jamais apporté un seul iota de purification. Ça, c'est juste faux, c'est juste impossible. Le seul moyen d'être vraiment clean, lavé du péché, lavé de cette tâche originelle qui gâche nos vies et ruine nos plaisirs, c'est de venir à Jésus-Christ qui change nos vieilles méthodes. Nos vieilles méthodes inefficaces pour nous purifier par son œuvre à la croix et par sa résurrection. Jésus, lui, il est venu pour apporter le bonheur, la joie, la paix. Et cette paix, elle doit durer. Dans les versets 9 et 10, il dit « Tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant ». Jésus veut garder la fête, il veut garder la joie, il veut maintenir l'abondance dans nos vies. Le maître de cérémonie, là, il se doute même pas une seule seconde qu'il parle d'un miracle. Ni le marié, qui n'avait peut-être pas encore été alerté, ni même les invités. Seuls les serviteurs, eux, ils sont allés puiser, ils ont rempli les jarres, là, jusqu'au. Et puis ensuite, ils sont puisés dans ces jarres, c'était de l'eau. Ils sont allés le verser, c'était du vin. Eux, ils savent. C'est un miracle. Jésus sait ce qu'il a fait. La mère de Jésus sait. Les disciples qui sont là savent. Jésus, quand il fait ça, il fait quelque chose de merveilleux. Voyez-vous, il enlève la honte. Bientôt, la honte allait être dévoilée. La honte des mariés allait être dévoilée. Ça allait être la cata. Et Jésus a enlevé ça. Il a préservé ça. Et puis, il dit, là, il y a les jarres, il y avait 2-3 mesures. 2-3 mesures, c'est à peu près entre 80 et 100 litres. Et 120 litres. Donc, ça fait 100 litres de moyenne, fois 6 jarres, ça fait 600 litres. En bouteille de 75, ça fait 800 ou 900 bouteilles. Bon, eh ben, la honte est vraiment enlevée. C'est un cru, millésime. Et en plus, c'est un magnifique cadeau de mariage. Ils vont avoir du vin pour toute leur vie, avant d'avoir vidé toutes ces bouteilles. Ils ont dû. Dieu, Jésus, il apporte ça dans nos vies. Il enlève la honte, puis il apporte la fête, il apporte la joie, et une joie vraiment durable. Je termine avec ce troisième et dernier point, la compréhension du signe, ça c'est la foi. Jésus, il dit au verset 11 qu'il a manifesté sa gloire. Dans ce miracle, il a manifesté, il a révélé sa gloire. Sa gloire, c'est vraiment de sauver la fête de la honte. Sa gloire, c'est sauver du déshonneur, de la ruine. Sa gloire, c'est de ramener la joie dans les situations désespérées. C'est de relever nos vies, nos cœurs. Dans sa gloire, c'est de manifester sa puissance créatrice. Néanmoins, rien n'indique que ici que les serviteurs qui ont été les témoins privilégiés du miracle n'aient suivi Jésus. Vous avez remarqué ça? C'est eux qui ont versé l'eau, le vin. Et c'est étonnant, non? Ils ont vu ça, ils ont participé à ça, et ils sont pas partis avec Jésus. Verset 12 dit que Jésus est parti avec sa mère et ses disciples et ses frères. Tous ceux qui croyaient déjà l'ont suivi, sa famille et puis ses disciples l'ont suivi. Mais les serviteurs, eux qui ont participé à ça, ils l'ont pas fait, ils l'ont pas vu. Et je trouve que c'est assez troublant. Ça montre que on peut voir le signe et ne pas le comprendre. On peut voir les ballons, voir les cœurs et s'arrêter au poteau. Il y a plus important que les ballons. Elle est mariée. Il y a plus important que le vin. Il y a Jésus qui peut véritablement remplir vos cœurs, nos cœurs. Et Jésus, lui, il est celui qui peut ramener la fête dans nos vies. Et le signe, si on veut le comprendre, il faut simplement croire en Jésus-Christ. Croire que Jésus, lui, va effacer nos péchés, il va ramener la fête. Ce qui est étonnant ici encore dans ce verset, dans ce passage, il dit que ses disciples crurent en lui. C'est bizarre quand même comme expression, ses disciples crurent en lui. Moi je croyais qu'un disciple c'était précisément quelqu'un qui croyait en Jésus. Et quand vous regardez, si vous souvenez du message de Samuel la semaine dernière, on a vu des gens qui ont cru en Jésus. Et puis même Jésus dit à Nathanaël, qui est probablement à la fête avec eux, lui il est de Cana, il dit si tu crois, tu verras de plus grandes choses. Hein. Tu crois parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, mais donc il croyait déjà. Et au fond, je trouve qu'il y a une vérité ici importante pour nous, c'est que croire, c'est pas juste quelque chose qui, à un moment là, je crois, hop, je suis sauvé, puis après j'ai plus besoin de croire. Quand on parle de la foi ou c'est plutôt comme marcher. Quand je marche, voilà, là je marche plus. Hein. Donc si je marche, ça veut dire que je continue à marcher. Si je respire. Si on dit que quelqu'un respire, c'est qu'il respire, c'est-à-dire il s'arrête jamais de respirer. C'est quand il s'arrête de respirer, il respire plus. Vous comprenez la chose? Quand on est disciple de Christ, qu'on place sa confiance en Christ, c'est pas que on s'est une fois cru à quelque chose et puis qu'on a plus besoin d'exercer sa foi. On continue à croire. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ, il est le seul qui puisse véritablement sauver la fête de votre vie? Est-ce que vous croyez que simplement par la foi en son sacrifice, il vous invite et il vous reçoit dans les fêtes éternelles, à ses noces pour l'éternité? Est-ce que vous croyez que Jésus, en plaçant votre confiance en lui, en l'invitant à vos noces, à votre fête, il va maintenir la joie, il va maintenir l'abondance dans votre vie? Ne cessez pas de croire. Continuez. Je mets ici dans la bouche de l'ordonnateur, il est merveilleux, vous pouvez le servir. Il est merveilleux, vous pouvez servir Jésus. Et c'est cela qui est en train de se passer dans la tête des disciples. Ils comprennent. Celui qu'on a choisi comme maître, celui qu'on est en train de suivre, celui qu'on pense être le Messie, il est vraiment merveilleux. Et on peut vraiment le servir. Et on peut vraiment investir nos vies là-dedans. en lui. On ne sera pas déçu. Et je vous encourage à ça. Placez votre confiance en Jésus-Christ. Et vous ne serez pas déçu. Vous ne serez pas déçu. Il est merveilleux. Vous pouvez le servir.